Pas Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorsil.
Et Bagassi Koura.
Bonsoir, les grands points de l'actualité.
Au Tchad, manifestations d'élèves dans le sud du pays, on parle d'au moins 3 morts.
Boko Haram s'empare d'une nouvelle localité au Nigeria, où la région du Nord-Est a été encore une fois le théâtre de violences dimanche.
En RDC, retour au calme à Kinshasa, les marches de l'opposition prévues aujourd'hui n'ont pas eu lieu.
Nouvelle flambée de violence dans l'est de l'Ukraine. L'OTAN annonce une session extraordinaire alors que Kiev et Moscou se renvoient les accusations.
Mauvais temps dans le nord-est des États-Unis où la météo a prévu des chutes de neige de proportions historiques.
Et nous aurons bien sûr notre page économie et le journal de la CAN. D'abord, le journal.
D'abord, on commence par l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Match nul en ce moment entre le Congo et la Tunisie, 0-0. Nicolas Pino sera là dans une dizaine de minutes pour le journal complet de la CAN. Au Tchad, une manifestation d'élèves de terminale du lycée de Boda dans le sud du pays aurait fait au moins 3 morts aujourd'hui. Des véhicules administratifs et une partie du marché de la ville ont été incendiés par les manifestants. Ces derniers protestaient contre une mesure de les empêchant de s'inscrire au baccalauréat 2015 après leur échec aux 2 précédentes sessions.
C'est comme si les Tunisiens nous écoutaient. Ils viennent de marquer un but face à la RD Congo. Le nord-est du Nigeria a été hier le théâtre de violences. L'armée est intervenue pour repousser une offensive de Boko Haram à Maïdougouri. En revanche, le groupe islamiste s'est emparé de la localité de Monguno. Jean-Roger Bien.
L'attaque a eu lieu sur 2 fronts. Les assaillants de Boko Haram ont d'abord visé un faubourg de Maïdougouri, pendant que d'autres combattants attaquaient Monguno à quelques 130 km au nord-est. Cette localité est dépuisée et contrôlée par les insurgés. L'armée, soutenue par une milice d'autodéfense, a repoussé l'attaque de Maïdougouri, fief historique de Boko Haram. Un avion et des hélicoptères ont même participé au combat. Il y a eu au moins 8 morts et 27 blessés, en majorité des civils. Le colonel Sani Ousmane, porte-parole de l'armée dans la région, a annoncé ce lundi la levée du coup feu de 24 heures qui était imposé dans la capitale de l'État de Borno. Kashim Chetima, le gouverneur de l'État, a appelé les habitants à ne pas céder à la psychose. John Kerry, le secrétaire d'État américain, s'est arrêté hier à Lagos pour réaffirmer le soutien de Washington dans la lutte contre le terrorisme. Des élections générales sont prévues dans le pays le 14 février prochain.
En RDC, la situation s'est calmée dans la capitale suite à l'adoption de la loi électorale sans l'alinéa controversé à l'origine des violences de la semaine dernière. Les marches prévues par l'opposition à Kinshasa n'ont pas eu lieu, nous dit Eric Ambago de notre radio partenaire Top Congo FM.
Les activités reprennent progressivement à Kinshasa après une semaine de léthargie due à 3 journées de manifestation organisé par l'opposition pour protester contre le projet de loi électoral. Le projet de loi a été finalement modifié et a été adopté par les 2 chambres du Parlement. Du coup, l'UDPS, qui avait projeté une marche ce lundi, l'a tout simplement annulé. Le secrétaire général du parti d'Étienne Tshisekedi a justifié cet acte par l'apaisement observé dans la capitale après le vote de loi électorale par les 2 chambres du Parlement. Pour l'heure, on parle de dialogue. Dialogue pour préparer les échéances électorales, dialogue pour lequel il y a divergence entre la majorité et l'opposition autour de la personnalité qui devrait convoquer ce dialogue. Pour l'opposition, c'est le patron de la MONUSCO qui devrait le convoquer, mais pour la majorité, c'est le président Joseph Kabila qui devrait convoquer ce dialogue. On est donc parti pour des discussions sur les préalables de ces discussions. Eric Ambago de Top Congo pour la Voix de l'Amérique.
Les 2 fils de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak ont été libérés. Camille Gros-Didier.
Alaa et Gamal Moubarak ont quitté à l'aube lundi la prison Tora au sud du Caire, près de 4 ans après la chute du pouvoir de leur père, Hosni Moubarak. Ils ont été libérés sous caution en attendant leur nouveau procès dans une affaire de détournement de fonds publics. En première instance, ils avaient été condamnés à 4 ans de réclusion dans ce dossier, qui a également valu à leur père une peine de 3 ans de prison. L'ex-président est actuellement détenu dans un hôpital militaire. La Cour de cassation a ordonné le 13 janvier la tenue d'un nouveau procès pour M. Moubarak et ses 2 fils. L'Égypte a commémoré dimanche le 4e anniversaire de la révolte de 2011, ont signalé près d'une 20aine de morts dans des affrontements avec la police.
En Centrafrique, 8 membres d'une délégation officielle ont été enlevés dimanche à Kaga-Bandoro, dans le centre-nord du pays. Et selon l'AFP qui rapporte l'information, ils ont été libérés ce lundi par des membres de l'ex-coalition Seleka. Parmi les personnes enlevées figurent le maire de la ville de Kaga-Bandoro et le sous-préfet de Mbré, ville voisine. Les victimes de ce dernier rapt en date ont été remises aux forces onusiennes dans le pays.
Quelqu'un qui devrait répondre de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, Dominique Ongwen, l'un des principaux chefs de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, a comparu aujourd'hui pour la première fois devant la Cour pénale internationale. Selon l'AFP, la confirmation des charges contre Ongwen est prévue pour le 24 août prochain.
Leur liberté aura été de courte durée. Trois responsables de l'opposition nigérienne qui avaient été remis en liberté vendredi ont été à nouveau arrêtés le lendemain. Ces arrestations sont en lien avec les récentes manifestations violentes dans le pays, selon l'AFP, citant leurs avocats. Ousseini Salafou, le porte-parole de l'opposition, Soumana Sanda, l'ex-ministre de la Santé, Youba Diallo, un ancien directeur de la douane, faisaient partie des 90 personnes arrêtées dimanche 18 janvier après un rassemblement interdit de l'opposition à Niamey.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Session extraordinaire de l'OTAN pour discuter de la reprise des combats dans l'est de l'Ukraine. Les 28 membres de l'Alliance et un représentant de Kiev se sont réunis à la demande du gouvernement ukrainien. Ce dernier dit avoir perdu 7 soldats dans les récents affrontements. 25 autres ont été blessés. Cette nouvelle flambée de violence intervient au lendemain d'une attaque à la roquette qui a fait au moins 30 morts et plus de 80 blessés dans la ville portuaire de Mariupol. Kiev et Moscou se renvoient les accusations.
En Syrie, les forces kurdes ont repris le contrôle de la ville de Kobané, limitrophe de la Turquie, après 4 mois de combat contre le groupe État islamique. C'est ce qu'annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'ONG basée à Londres, les Peshmerga ont pu repousser les djihadistes grâce à l'appui aérien de la coalition que dirigent les États-Unis. Entre-temps, des délégations syriennes sont à Moscou pour 4 jours de pourparlers visant à préparer une nouvelle conférence internationale de paix sur la Syrie. Le conflit qui a débuté en mars 2011 a déjà fait plus de 200 000 morts et 11 millions de réfugiés et de déplacés internes.
Le président américain Barack Obama poursuit sa visite en Inde. Il a été aujourd'hui le premier chef de l'exécutif américain à assister à New Delhi aux célébrations de la fête de la République qui commémore la première constitution de l'Inde indépendante. Hier dimanche, le président Obama avait annoncé une percée concernant un accord nucléaire indo-américain en panne depuis 2008. Barack Obama se rendra demain en Arabie Saoudite pour présenter ses condoléances à la famille royale saoudienne suite à la mort du roi Abdullah la semaine dernière.
Un petit drone volant à basse altitude s'est écrasé dans les jardins de la Maison-Blanche ce lundi, provoquant un renforcement des mesures de sécurité. La porte-parole du Secret Service, le service de protection présidentielle, a fait savoir qu'une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'engin qui, selon elle, est disponible sur le marché. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, qui accompagne le président Obama à New Delhi, a déclaré que l'engin ne semblait pas poser de menace au personnel. On ignore si les deux filles du président étaient dans le bâtiment.
Mauvais temps, comme nous l'avons dit, dans le nord-est des États-Unis, où un avis de blizzard a entraîné le retard ou l'annulation de 4000 vols aujourd'hui. Les communautés de la région se préparent au pire, nous dit Michel Joseph.
La météo prévoit de fortes chutes de neige et des vents violents dans toute la région, incluant New York et Boston. Ces deux villes pourraient enregistrer de 45 à 90 cm de neige. Du coup, c'est la mobilisation générale. Dans les États de Pennsylvanie, de New Jersey, New York et Connecticut, les écoles ont écourté leur journée ou n'ont pas ouvert du tout. Les hôpitaux ont fait appel à des agents additionnels. Ils s'attendent à un afflux de malades aux urgences, avec la fermeture presque certaine des cliniques et dispensaires où ces derniers se rendent habituellement. Les municipalités ont positionné en grand nombre les engins en vue de déblayer les routes et les rues au fur et à mesure que la neige tombe. Dans certaines, des mesures ont été prises pour limiter la circulation automobile durant cette période. C'est le cas dans le Connecticut où le gouverneur Dan O'Malley a invité ses administrés à éviter tout déplacement non nécessaire. En voyage en Inde, le président Barack Obama a été informé de la situation, a indiqué son porte-parole Josh Earnest. Par ailleurs, la Maison-Blanche est en communication permanente avec les autorités des États qui seront touchés par le blizzard.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Bienvenue.
Voilà pour le journal. Donc, place au journal des sports avec Nicolas Pinot.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Le verdict final ce lundi dans le groupe B. Hier, incroyable scénario dans le groupe A. Le Congo et la Guinée équatoriale qualifiés pour les quarts de finale. Coup d'envoi depuis 18h temps universel des deux derniers matchs du groupe B en simultané. La Zambie, dernière du groupe avec un point, affronte le Cap-Vert 0-0 après 40 minutes de jeu. Les deux équipes ont impérativement besoin d'une victoire pour accéder au quart de finale. La Tunisie en tête du groupe avec 4 points peut se contenter d'un match nul face à la RDC. Mais les Léopards voudront à tout prix se surpasser. Domination de la Tunisie avec plusieurs occasions tranchantes qui ont été récompensées. Akaishi ouvre le score 1-0 pour les Aigles de Carthage. On est bientôt presque à la mi-temps. Non, ne me teste pas, non, j'ai la balle, ne me teste pas. Écoute la foule crier qu'on va gagner. Retour à présent sur les matchs du groupe A qui ont eu lieu hier. Le Nzalang National réédite l'exploit de 2012. Comme lors de la CAN organisée à domicile, les Équato-Guinéens se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. Ils l'ont fait avec brio et grâce à leur impeccable gardien Ovono. Les Gabonais vont longtemps reparler du pénalty sifflé peu avant l'heure de jeu par l'arbitre ivoirien de la rencontre Désiré Doué-Noumandier. Balboa transforme et quelques minutes plus tard, c'est Edou qui donne la victoire aux Équato-Guinéens 2-0. Les Panthères gabonaises disent adieu à la compétition. Grosse déception, vous l'imaginez, de l'attaquant Romaric Rogombe.
Bon, vous savez, c'était un match compliqué. On savait que ça devait être compliqué avec le pays organisateur parce qu'ils avaient l'arbitre derrière. Parce que je crois savoir que sur ce penalty, il n'y a jamais penalty. Un arbitre qui officie jusqu'à la Coupe du Monde ne peut pas siffler ce genre de penalty. Mais non, c'est des choses qui arrivent. On a encaissé un premier, il fallait pousser pour essayer d'égaliser. On a pris un deuxième. C'est le football. Mais on a eu des occasions, on a eu des possibilités de marquer en première mi-temps. On a eu deux occasions où on pouvait tuer le match, on n'a pas mis. Et le football, c'est juste des petits détails. On n'a pas mis et on est revenu en deuxième mi-temps. Il y a l'arbitre qui s'y fait un penalty inexistant. Maintenant, c'est les choses qui arrivent.
Voilà Romaric Rogombe, l'attaquant gabonais. Autre sensation de la soirée à Bata, le Congo termine premier du groupe A après une nouvelle victoire, cette fois contre les vice-champions d'Afrique burkinabés. La tête basse, les étalons quittent la compétition. Tout s'est joué en deuxième mi-temps dans ce match. À la 51e minute de jeu, Bifouma a inscrit son second but de la compétition. Bansé réussit à égaliser en fin de match, mais les Diables Rouges trouvent les ressources morales. Nguessi vient battre le portier burkinabé et donne la victoire aux Congolais. Score final 2-1. Statistique incroyable pour Claude Leroy, le sélectionneur du Congo-Brazzaville. C'est la 7e fois en 8 CAN qu'il franchit le premier tour. Un vrai sorcier blanc. Compte rendu de ce match avec Salif Kabore.
Comme en 2012, les étalons de Burkina Faso quittent la CAN 2015 avec seulement un but inscrit contre 4 encaissés en 3 matchs. L'entraîneur de l'équipe burkinabé dit avoir utilisé toutes les stratégies pour gagner le Congo-Brazzaville, mais hélas, Paul Put.
C'est toujours, tu le sais, tu es dans une position faible. Tu commences le match, pour le Congo, un match nul, c'est assez. Nous, on doit gagner. Alors, ça joue dans la tête des joueurs aussi, mais je pense qu'on a géré le premier mi-temps. On a créé quelques occasions, mais on doit dire aussi, on n'a pas eu la chance. Les joueurs qui étaient les meilleurs buteurs, ils ne sont pas dans leur niveau non plus.
Le joueur burkinabé Alain Sebri Traoré, qui a joué les 3 matchs pour son équipe, se félicite.
J'ai fini les 3 matchs sans se blesser. C'est déjà un point positif pour moi personnellement. J'ai apporté un plus, j'ai essayé de donner le meilleur de moi, mais ça n'a pas suffi.
Le Congo-Brazzaville, en quart de finale, est une grande satisfaction pour son entraîneur, Claude Leroy.
Le match a été intense physiquement, on le savait. On avait aussi mis l'accent dessus. On se sentait prêt à répondre à ce niveau-là. C'est surtout l'intensité psychologique avec au bout une place en quart de finale. Ce qui n'est pas négligeable, on va se faire un plaisir de revenir également sur Bata.
À Ebibéine, en Guinée équatoriale, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
Voilà, les grenouilles d'Ebibéine qui étaient avec Salif Kabore. À suivre demain les derniers matchs du groupe C, Algérie-Sénégal et Ghana-Afrique du Sud. On rappelle que pour le moment, le Sénégal est premier de ce groupe. Et on vous rappelle ce soir les matchs du groupe B. Pour le moment, 1-0 pour la Tunisie face à la RDC. Et dans l'autre rencontre du groupe, 0-0 entre le Cap-Vert et la Zambie. Pour le moment, c'est la Tunisie et le Cap-Vert qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Mais il reste encore 45 minutes de jeu.
Merci Nicolas Pinot pour ce journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Place maintenant à la Minute Éco. C'est un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Ce soir avec Jacques Aristide.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Gabi, bonsoir à tous.
L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, conséquences limitées dit-on sur l'économie du continent?
C'est du moins l'avis du secrétaire exécutif de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique, tel que rapporté par l'AFP. Carlos Lopez a déclaré sans embâge à Addis Abeba qu'il y a eu des pronostics inquiétants sur l'impact d'Ebola, mais d'après lui, ses prédictions sont fausses.
Boko Haram au Cameroun fait perdre 500 millions de dollars de recettes douanières, Jacques.
L'extrême nord du Cameroun, d'après ces informations, générait environ 5 milliards de francs CFA par an. En raison des attaques meurtrières de Boko Haram, la douane camerounaise a été contrainte de suspendre les postes de photocolle Kolafata, Dabanga, Limani, Mblame, notamment. Également affecté les douanes de Garoua, Boulaï, où la situation sécuritaire laisse autant à désirer. Des défis frontaliers sur lesquels se penchent les douanes camerounaises en cette journée mondiale des douanes.
Et parlons de ce rendez-vous important pour les investisseurs africains.
Les 2 et 3 avril prochains, Casablanca va abriter la troisième édition de Hub Africa, un rassemblement présenté comme le premier salon des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique, un lieu où vont se rencontrer des acteurs publics et privés, nationaux et internationaux. Des médias rapportent que les 2 premières éditions ont été un franc succès, à même de pouvoir encourager la création d'emplois sur le continent africain.
Alors, rendez-vous à Casablanca, Jacques.
Pourquoi pas?
Merci.
Vous voulez qu'on y aille ensemble? Pourquoi pas?
Si vous avez l'argent, j'ai le temps.
Allez, Maroc, on arrive.
Voilà, vous êtes toujours sur la Voix de l'Amérique à Washington. Chez Ruben Dorcy, les Bagassi Courant, votre compagnie pour cette édition du 26 janvier 2015. Les dossiers du jour. En RDC, le Parlement a trouvé dimanche un compromis et a voté une loi électorale qui ne conditionne plus la tenue des élections de 2016 au référendum et à l'identification. Le calme est revenu à Kinshasa et dans d'autres villes du pays après les violences qui ont causé plus de 40 morts. Lundi, les manifestations appelées par l'opposition n'ont pas eu lieu. La tempête est-elle désormais passée? Pour répondre à la question, Eddie Isango a joint ici aux États-Unis un analyste politique et spécialiste en administration publique, Jean-Aimé Bondo.
Dire que la tempête est passée, ça sera de se faire des illusions, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a le calendrier électoral que tout le monde attend. Et je crois que même les gens qui sont les tenants du pouvoir actuel doivent faire attention. Si le peuple n'a pas réagi aujourd'hui, vous savez que d'abord, il y avait l'appel, la mobilisation de l'Église catholique qui n'a pas eu lieu. Alors, parce que tout le monde était focalisé sur ça, alors penser que la tempête est passée, ce sera de se faire des illusions. C'est un calme apparent, mais tout peut basculer à tout moment.
Et comment vous expliquez ce calme? C'est juste parce que les deux chambres du Parlement ont convenu sur un même texte de projet de loi électorale?
Oui, en fait, parce que les peuples s'allient était que non, il fallait empêcher à tout prix qu'il n'y ait pas glissement des élections à venir. Que les élections aient dans les temps prévus par la Constitution, donc les élections doivent avoir lieu 90 jours avant la séance du mandat actuel du président. Et c'est, alors, si à ce moment il dépassait même d'un mois, c'est ce qu'on appelle glissement. Alors, le peuple n'est pas d'accord avec soi, parce qu'il ne veut plus encore que le tenant actuel du pouvoir, spécialement M. Kabila, qui reste le plus longtemps possible au pouvoir. Le peuple voudrait qu'il y ait un changement alternatif au pouvoir. Et c'est ce qu'on pense que le peuple était focalisé sur ça. Et comme cela est passé, mais donner le temps au peuple d'analyser encore la loi en profondeur et voir s'il n'y aura pas d'autres choses qui peuvent encore bloquer ou amener à ces glissements.
Que va-t-il se passer? Kabila ne s'est pas prononcé officiellement s'il se représentera ou pas.
Oui, en fait, il n'a même pas à se prononcer. Stratégiquement, Kabila ne peut pas se prononcer. Pas si se prononcer, même les paix des pouvoirs qu'il a, il n'a plus ça. Mais je crois que c'est tout à fait logique qu'il garde son silence et qu'il ne dit rien sur ça, mais qu'il continue à travailler jusqu'à la fin de son mandat.
Mais que va-t-il se passer? Va-t-il se présenter ou pas? Est-ce que cette loi est suffisante pour l'empêcher de se représenter comme le pensent ses adversaires?
À mon humble avis, il n'a même pas le droit de se représenter parce que la Constitution ni la loi ne lui donnent même pas cette autorisation-là, ni le pouvoir de se représenter. Les gens qui sont au pouvoir, ils doivent être attentifs réellement à la volonté de la population. Les élections peuvent avoir lieu s'ils ont la volonté politique de les organiser. Mais s'ils veulent qu'il y ait encore des troubles, les élections n'auront pas lieu. Les problèmes de moyens financiers, on les a demandés par la communauté internationale de donner le calendrier et on va, ils peuvent trouver des moyens. Mais s'ils ne veulent pas, s'ils veulent entretenir les flous, donc il y aura encore des troubles dans les jours à venir.
Jean-Aimé Bondo, analyste politique, joint par Eddy Issango.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum, ce jeudi, décryptage de la situation en République démocratique du Congo après les violences meurtrières autour d'un projet de loi électoral controversé. Des Congolais sont descendus dans la rue pour dire non à un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila. Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Cap maintenant sur le Tchad. Le mouvement populaire du Salut, MPS, parti au pouvoir, semble traverser une zone de turbulence. Ainsi, la session du Conseil national du Salut, sorte de parlement du parti, qui s'est ouverte hier dans la capitale tchadienne, s'est muée aujourd'hui en conseil extraordinaire. Et à cette séance, un nouveau secrétaire général a été nommé. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint N'Djamena, Gendrum Mbaininga du journal N'Djamena Biebdo.
Dans la salle, lorsque nous étions en train de couvrir l'événement, on sentait que les congressistes voulaient des changements. Ils voulaient un changement en ce sens que vraiment, on a remarqué qu'ils voulaient que les anciens du MPS fassent place vraiment à la jeunesse. Et dans leur discours également, même le président du comité préparatoire disait parler beaucoup plus de la jeunesse. Le président fondateur lui-même, quand il est arrivé, il a donné beaucoup de poids à la jeunesse et aux femmes. Donc, lorsqu'on suivait les débats, il voulait effectivement que les familles, comme on dit, fassent place à une jeunesse plus vigoureuse, quoi.
C'est l'ancien Premier ministre Emmanuel Nadingar qui devient le nouveau secrétaire général du MPS. Dans quelle mesure représente-t-il la jeunesse du mouvement?
Apparemment, c'est Emmanuel Nadinga qui a été retenu par le président fondateur du MPS à la place de son co-légionnaire, d'ailleurs, Adrien Diomado. Il faut dire que Emmanuel Nadinga était aussi ancien premier ministre. En plus, je crois que son ascension, je dirais, une ascension peut-être, il avait organisé la fête du 1er décembre à Ndamena, pour cela, donc il a dû galvaniser la jeunesse, tout ça, et on a dû lui donner ça, pour qu'il continue la tâche.
Est-ce qu'il y a eu d'autres mesures, notamment en direction de certains membres qui ont quitté le MPS, comme l'ancien Premier ministre Djibrangar Dadnadji?
Non, le départ de Djibrangar Dadnadji n'est pas évoqué officiellement au cours de ce congrès, mais beaucoup, même le secrétaire général sortant, c'est la cohésion au sein des militants du MPS. Le président de la République, lui, il est venu mettre un accent assez particulier aussi. Il ne faut plus vous diviser, arrêter, ça ne vous divisez pas. Allons ensemble pour gagner des victoires futures. Voilà ce qu'il a dit en ce sens.
Gendrum Baininga du journal N'Djamena Bi Hebdo.
Voilà, Barack Obama, invité de marque pour la fête nationale de l'Inde au second jour de sa visite d'État. Mais il a écouté cette visite pour se rendre en Arabie Saoudite. Les précisions de Claire Morin-Gibault.
En visite jusqu'à mardi à New Delhi, Barack Obama est le premier président américain en exercice à être l'invité d'honneur du défilé qui célèbre chaque 26 janvier l'entrée en vigueur de la constitution post-coloniale de l'Inde de 1950. Barack Obama et son épouse Michelle ont été accueillis sous une fine pluie par le Premier ministre Narendra Modi pour assister à la parade. New Delhi a été placé sous haute sécurité. Au premier jour de sa visite de 3 jours, M. Obama a annoncé un accord important.
Aujourd'hui, nous avons accompli une percée sur 2 questions qui bloquaient notre capacité à progresser dans notre coopération nucléaire et nous sommes engagés à aller de l'avant vers la pleine application et c'est un pas important prouvant que nous pouvons travailler ensemble et améliorer notre relation.
Les États-Unis avaient signé en 2008 un accord avec l'Inde pour lui fournir une technologie nucléaire civile. Mais sa mise en œuvre a été bloquée par une loi indienne qui, en cas d'accident, rendait responsable la compagnie qui a construit et fourni l'équipement. Dans la soirée hier, il était l'hôte du président indien Pranab Mukherjee qui a levé un toast pour célébrer le réchauffement dans les relations.
Ladies and gentlemen,
mesdames et messieurs, je vous demanderai de me joindre pour un toast pour la bonne santé de son Excellence le président Obama et son Excellence Madame Michelle Obama pour une longue prospérité et le bien-être des États-Unis et pour créer une étape décisive qui va renforcer davantage l'amitié et la coopération entre l'Inde et les États-Unis.
Après la parade, M. Obama s'est adressé à un forum d'hommes d'affaires américains et indiens. Le Premier ministre Narendra Modi a promis de faciliter la vie des entreprises étrangères, s'engageant devant les patrons américains et indiens à lever les obstacles jugés encore trop nombreux par Barack Obama. Le président américain devrait visiter le Taj Mahal mardi, mais a annulé cette étape pour se rendre en Arabie Saoudite en vue de présenter ses condoléances après le décès du roi Abdallah vendredi dernier. Il va rencontrer le nouveau roi Salman qui veut profiter de sa brève visite à Riyad pour pousser Washington à s'impliquer davantage dans le règlement des crises qui secouent la région, notamment le groupe État islamique et la crise au Yémen. Il est très probable que l'Iran soit également évoqué.
Chers auditeurs de VOA Afrique, restez branchés aujourd'hui entre 20h et 21h, temps universel, au menu de la bonne musique pop américaine. Le classement officiel des ventes de singles et titres aux États-Unis. Aussi notre sujet de cette semaine dans le RM Show, selon vous, c'est quoi la démocratie? Les pour et les contre de la démocratie. Mais on en parlera toute cette semaine avec nos invités dans le RM Show. Nous lirons vos mails et vos commentaires postés sur notre groupe Facebook Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Pour participer en live, appelez-nous aujourd'hui entre 20h et 21h, temps universel, au 001-202-619-3140. Je répète, 001-202-619-3140. Peace Africa!
Bagassi Koura et Chérubin Dorsil en direct de Washington à la une ce soir.
Au Tchad, une manifestation d'élèves de terminale du lycée de Doba dans le sud du pays aurait fait au moins 3 morts aujourd'hui.
En Centrafrique, 8 membres d'une délégation officielle enlevée dimanche à Kaga-Bandoro dans le centre nord du pays ont été libérés ce lundi par des membres de l'ex-coalition Séléka.
Dominique Ongwen, l'un des principaux chefs de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, a comparu ce lundi pour la première fois devant la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre.
Session extraordinaire ce lundi à l'OTAN pour discuter de la reprise des combats dans l'est de l'Ukraine. Kiev dit avoir perdu 7 soldats dans les récents affrontements. 25 autres ont été blessés.
En Syrie, les forces kurdes ont repris le contrôle de la ville de Kobané, limitrophe de la Turquie, après 4 mois de combat contre le groupe État islamique. C'est ce qu'annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres.
Voilà, vous êtes probablement dans le chaud, mais ici aux États-Unis, mauvais temps dans le nord-ouest du pays où un blizzard a entraîné donc le retard ou l'annulation de 4000 vols aujourd'hui. La communauté de la région se prépare au pire.
En fait, Bagassi, il pleut ici à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, mais la température est encore à 2 degrés centigrades. On aimerait bien être à Kinshasa où il fait 28 degrés ou encore à Malabo, pourquoi pas, où ils jouissent d'une température de 29 degrés centigrades. Malabo, bien sûr, c'est en Guinée équatoriale où se déroule la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2015. On va en parler tout à l'heure dans le spécial Sporama avec Nicolas Pinot. La mise en onde était assurée par Georges Léonard Sagno, assisté de Peter Handley à la console technique, à la présentation Bagassi Koura et Chérubin Dorsil.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Radio Mwangaza, Lubumbashi, 102.1 FM, Niamey. Radio Tropique 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.